Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce jeudi 13 janvier, Novak Djokovic, chaque jour un peu plus pointé du doigt, accusé d'avoir menti pour rentrer en Australie, accusé d'avoir participé à un événement public en Serbie alors qu'il avait le Covid. Le numéro 1 mondial a dû s'expliquer et il ne sait toujours pas s'il va participer ou non à l'Open d'Australie. La déclaration des résultats positifs venant d'un test rapide antigénique désormais obligatoire dans le New South Wales. Les contrevenants encourent une amende de 1 000 $. Résultat, tout le monde joue le jeu et l'État enregistre aujourd'hui plus de 90 000 nouveaux cas. Un jeudi noir prévu en France, plus de 75% des enseignants sont attendus dans les rues. Ils manifestent contre les protocoles sanitaires mis en place dans les écoles. Ils crient leur ras-le-bol et ciblent directement le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et enfin, le prince Andrew, contraint de passer devant la justice américaine pour les accusations d'agression sexuelle en lien avec l'affaire Jeffrey Epstein. Ses avocats n'ont pas réussi à faire rejeter la plainte qui pesait contre lui. Il invoque une erreur humaine et non un acte délibéré. Novak Djokovic a dû s'expliquer après avoir été accusé de mensonge sur sa déclaration d'entrée en Australie. Le numéro 1 mondial a en effet coché la case selon laquelle il n'avait pas voyagé dans les 14 jours précédant son arrivée, ce qui est faux puisque durant ces deux semaines, Novak Djokovic est allé en Serbie puis en Espagne. Il s'est justifié hier sur sa page Instagram. Je cite « Cette déclaration a été soumise par mon équipe en mon nom. Nous vivons une époque difficile et parfois des erreurs surviennent. Mais Novak Djokovic est également dans la tourmente en Serbie puisqu'il a assisté à un événement public le 17 décembre, un événement auquel il a pris des personnes dans ses bras, photos à l'appui, sauf que la rumeur dit qu'il était déjà positif au Covid à ce moment-là et qu'il le savait. Lors d'une interview accordée à la BBC, la première ministre serbe a confirmé que Novak Djokovic encourait des sanctions si cela était prouvé, mais elle botte en touche puisqu'elle ne veut pas accuser son protégé. Écoutez.
I think the only answer to this can be provided by Novak. So, to be honest, I don't know.
Novak Djokovic, qui n'est toujours pas fixé sur son sort ici en Australie, on attend encore la décision du ministre de l'Immigration Alex Hawke d'annuler ou non son visa. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui perçoivent la Pandemic Payment. Vous savez, cette aide financière gouvernementale lorsque l'on doit s'isoler, soit parce qu'on est positif, soit parce qu'on est cas contact, que cet isolement nous fait perdre plus de 8 heures de travail dans la semaine et qu'on ne peut pas avoir des congés payés pour compenser. Eh bien, le gouvernement fédéral a décidé de diminuer son montant. Pourquoi ? Parce qu'avec la résurgence de cas de Covid, de plus en plus de personnes demandent cette aide financière. Le versement hebdomadaire était de 750 $, il sera désormais de 450. Le Conseil australien des services sociaux a réagi et désapprouve grandement cette annonce.
ACOS is appalled that the federal government is now planning to cut the only federal income support payment for people who have COVID and must isolate when we have record case numbers. We strongly condemn this decision and urge the federal government instead to extend the disaster payment to everybody who needs it. Including people who contract the virus, need to be in isolation or are caring for somebody who is.
Le cabinet national se réunit aujourd'hui au programme des discussions entre le gouvernement fédéral et les premières de chaque État, les règles concernant l'isolement et le retour à l'école pour des millions d'enfants d'ici 2 semaines. Plus en détail, le cabinet national envisage le fait pour les cas contacts de ne plus s'isoler pendant 7 jours si leur test revient négatif. Et les ministres doivent aussi étudier la rentrée scolaire, trouver un équilibre entre nécessité économique de garder les écoles ouvertes et protection des enfants et des enseignants, annonce à suivre donc. 6 personnes sont décédées du Covid-19 dans le Queensland en 24 heures. Au total, près de 15 000 nouvelles infections ont été enregistrées hier. La première, Anastasia Palaché, a exprimé ses condoléances aux familles.
Tragically, it's very sad that we have lost 6 people overnight. That is the largest number of people that Queenslanders have lost during the pandemic. Can I please express my deepest sympathies to the families of the loved ones that have passed away. These are people's grandparents, brothers, sisters, uncles, and I think this will be a very difficult time for families at the moment.
Mais malgré ces chiffres records, le Queensland a décidé d'alléger les restrictions pour les voyageurs venant des autres États d'Australie. À partir de samedi, plus besoin de tests négatifs pour pouvoir passer la frontière. Les restrictions concernant les voyageurs venant de l'étranger seront quant à elles levées lorsque le cap des 90% des 16 ans et plus vaccinés sera atteint. On vous en parlait dans les précédentes émissions, le New South Wales rend obligatoire la déclaration d'un résultat positif issu d'un test rapide antigénique. Ceux qui ne rendraient pas public leur résultat encourent une amende de 1 000 $ à partir de mercredi prochain. Le site internet et l'application sur smartphone ont été mis en ligne hier matin et en une seule journée, plus de 50 000 personnes ont déclaré leur résultat positif. Pour Victor Dominello, le ministre du service client, cette amende est la preuve que le gouvernement prend la situation très au sérieux.
If we didn't have the fine, then there's probably going to be less people taking it, more people taking it less seriously and less people registering. If you've got the fine, more people will register and therefore we'll be able to give more people access to direct health services.
Et avec les résultats des tests rapides antigéniques désormais pris en compte dans le décompte quotidien du nombre de cas, eh bien le chiffre est tout de suite beaucoup plus impressionnant. Le New South Wales enregistre 92 264 nouveaux cas en 24 heures et 22 décès. C'est un sinistre double record depuis le début de l'épidémie il y a près de 2 ans. Les chiffres actualisés dans le Victoria sont tombés aussi ce matin. Plus de 37 000 nouveaux cas avec un record du nombre d'hospitalisations, 953, 111 patients sont en soins intensifs, 29 sous ventilateur, 25 personnes sont décédées hier. Et toujours dans le Victoria, on vous le disait mardi, le booster est désormais obligatoire pour les travailleurs de première ligne, comme les métiers de la santé ou les métiers de l'hygiène. Les précisions de Naomi Bromley, secrétaire adjointe en charge du Covid-19 au ministère de la Santé.
A number of our highest risk workers are required to have 3 doses to be able to go to work. So healthcare workers, aged care workers, disability workers, emergency services workers, correctional facilities, hotel quarantine, food distribution, abattoir meat, poultry and seafood processing workers. They're all eligible. If they're eligible for a 3rd dose today, they've got until the 12th of February to get that done.
Si on répète donc pour être très clair, 12 février, dernier délai pour ceux qui sont déjà éligibles à la 3e dose. Pour les autres, le délai maximal pour recevoir le booster est de 3 mois et 2 semaines après la date de la 2e dose. C'est un petit peu compliqué, il faut suivre. Hein. Et pour le moment, cette obligation vaccinale ne concerne que les métiers considérés comme étant à risque. Toujours sur le front de l'épidémie de Covid-19, mais en Europe à présent, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié ce chiffre, 7 millions de cas d'Omicron enregistrés en Europe juste sur la première semaine de janvier. D'après les scientifiques, la moitié de la population européenne sera atteinte du coronavirus dans les 6 à 8 semaines qui arrivent. Le docteur Hans Kluge est directeur de l'OMS Europe, il se dit très inquiet.
50 of the 53 countries in Europe and Central Asia have now reported cases of Omicron. It is quickly becoming the dominant virus in Western Europe and is now spreading into the Balkans. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks.
En France, la colère des enseignants ne faiblit pas face au protocole sanitaire. Ils seront dans la rue cet après-midi et on parle déjà d'un jeudi noir. 1 école sur 2 fermée, 75% de grévistes. Ils dénoncent la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, notamment les protocoles jugés inapplicables et qui ne protègent, selon les syndicats, ni les élèves ni les professeurs. Les enseignants sont aujourd'hui à bout de nerfs, à l'image de Marie Bresse. Elle s'occupe d'élèves en situation de handicap dans une école du 15e arrondissement de Paris. Voici son témoignage.
C'est très compliqué parce que les protocoles changent tout le temps. Donc vous allez avoir une première semaine où on met en place quelque chose qui est quand même compliqué en équipe, en expliquant qu'on va mettre des plots dans la cour pour que les élèves ne se mélangent pas, que des CP par exemple ne se mélangent pas avec des CM2. Et puis la semaine d'après, alors qu'on a organisé tout ça, ça s'arrête et il faut faire un autre protocole et mettre en place un autre protocole. Donc je pense qu'effectivement il y a un ras-le-bol de l'ensemble des protocoles les uns après les autres. Je pense qu'il y a de la fatigue, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi malades en ce moment. Mais il y a aussi que on a l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux sur notre travail d'enseignant et qu'on est là que pour faire finalement de la garderie Covid, quoi.
Un ras-le-bol directement dirigé contre le ministre de l'Éducation nationale, hein. Jean-Michel Blanquer est pointé du doigt pour sa communication chaotique et ce que les syndicats décrivent comme, je cite, des mensonges permanents. Jean-Michel Blanquer cible également de l'opposition Valérie Gasse.
Des protocoles trop compliqués, une mauvaise communication. Jean-Michel Blanquer a multiplié les erreurs à la rentrée. Face au ras-le-bol des enseignants et des parents, la tentative de déminage de Jean Castex en début de semaine, avec l'annonce de nouvelles procédures, n'a pas réussi à calmer le jeu. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on essaie de minimiser le désaveu en expliquant que quand les décisions concernent des millions de gens, il n'est pas étonnant que le Premier ministre s'en mêle, tout en reconnaissant que ce n'est pas facile pour Jean-Michel Blanquer en ce moment, qu'il est un peu comme un brise-glace pris dans la glace et en précisant que dès le démarrage, le président a compris que le dispositif Covid à l'école était trop lourd. Jean-Michel Blanquer est-il fragilisé politiquement? Il fait partie de ces ministres symboliques d'Emmanuel Macron maintenus dans la durée mais qui concentrent les attaques de l'opposition et ne font pas forcément l'unanimité dans la majorité. Ses relations sont notamment difficiles avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Mais à l'Élysée, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en affirmant que la politique éducative reste à mettre à l'actif du quinquennat.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson dans la tourmente, le Premier ministre britannique a dû présenter ses excuses devant les députés après les révélations sur sa présence à une fête au 10 Downing Street, au plus fort de la crise sanitaire l'année dernière, et alors que toute l'Angleterre à ce moment-là était confinée. Boris Johnson admet avoir organisé une soirée avec plus de 100 personnes, mais se justifie en évoquant une grosse réunion de travail dans les jardins pour justement être au grand air et ne prendre aucun risque. Des excuses qui n'ont bien sûr pas convaincu l'opposition. Le chef du parti travailliste pointe du doigt une défense, je cite, « tellement ridicule qu'elle en est insultante pour ses compatriotes ». L'opposition qui appelle donc Boris Johnson à démissionner. Alors en soi, ce n'est qu'un scandale de plus pour les premiers ministres britanniques. Il est habitué aux frasques, mais la différence cette fois, c'est la colère du peuple anglais. Philippe Marlière est professeur de sciences politiques à l'University College de Londres. Il analyse la situation.
Comment un gouvernement peut-il demander à la population de suivre des règles draconiennes, qui restreignent évidemment les libertés, mais aussi qui mettent en jeu finalement des situations extrêmement douloureuses. Le cas de personnes, âgées ou pas, qui sont mortes du Covid à l'hôpital et qui ne pouvaient pas être assistées par leur conjoint ou leurs parents. Des enterrements sans que la famille ou les amis puissent venir rendre hommage aux défunts. Tout ce genre de situation qu'on a aussi connu en France et ailleurs. Donc vous avez d'un côté un gouvernement qui édicte ses règles et deux ans après, on apprend qu'au moment même où ce gouvernement mettait en œuvre ses règles, eh bien, on apprend que ce gouvernement lui-même organisait une partie à Downing Street, bien arrosée d'alcool, et qu'il y avait une centaine de personnes, vraiment enfreignant toutes les règles qui avaient été mises en place à l'époque. Donc effectivement, il y a une indignation populaire, parce qu'on se dit les règles qu'un gouvernement nous impose ne valent pas pour ce même gouvernement.
La suite des discussions entre l'OTAN et la Russie, eh bien si dialogue il y a, c'est un dialogue de sourds. Chaque partie campe sur ses positions. Les alliés demandent à Vladimir Poutine de retirer ses troupes des abords de l'Ukraine. Le Kremlin, de son côté, veut l'assurance que l'OTAN ne sera pas élargie à de nouveaux membres, l'Ukraine en particulier bien sûr. Des discussions qui continuent mais qui n'avancent pas donc. Au final, les Russes et les alliés se sont mis d'accord pour continuer le dialogue et organiser de nouvelles rencontres, sans avoir pris de décision alors qu'ils étaient en train de dialoguer et de se rencontrer. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le prince Andrew va finalement bel et bien devoir faire face à un procès aux États-Unis. Dans le dossier Jeffrey Epstein, le fils cadet de la reine d'Angleterre est accusé d'agression sexuelle, une affaire qui le poursuit depuis plus de 20 ans. Ses avocats n'ont pas réussi à faire rejeter la plainte de la victime présumée, une américaine mineure au moment des faits. À New York, les explications de Lubna Anaki.
La décision du tribunal fédéral de Manhattan est sans surprise. Lors de l'audience, le juge Kaplan s'était montré sceptique face aux avocats du prince Andrew et leur requête pour classer sans suite les accusations contre le duc d'York. Les faits évoqués dans la plainte en question remontent à 2001. Virginia Giuffre avait alors 17 ans. Cette année-là, dit-elle, le prince Andrew l'aurait agressée sexuellement à Londres, New York et aux îles Vierges, où Jeffrey Epstein, un ami du duc, possédait des résidences. Le prince, lui, a toujours nié les faits, affirmant ne pas pas se souvenir de la jeune femme, une version contredite par les nombreuses photos les montrant ensemble. Ses avocats estimaient que la plainte déposée à New York était sans fondement car Virginia Giuffre avait en 2009 signé un accord avec Jeffrey Epstein, s'engageant à ne poursuivre ni l'homme d'affaires ni d'autres accusés potentiels. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que le juge Kaplan rejette une requête en annulation, une décision qui ouvre la voie à un procès dès la fin 2022, explosif pour la monarchie britannique.
Retour en Australie et une deuxième personne est décédée dans les intempéries qui frappent le Queensland à cause du cyclone Tiffany. Il s'agit d'un homme, Steve Butcher. Sa femme, sa fille de 8 ans et lui s'étaient réfugiés toute une nuit dans un arbre. La police dit que la mère et l'enfant sont des miraculés. Le cyclone Tiffany qui se dirige vers les territoires du Nord à présent, selon les météorologistes, la région aborigène Nuka et ses alentours devraient être les premiers à être touchés par la tempête. Ils les appellent à s'isoler au plus vite.
And we're forecasting daily rainfall totals anywhere between 50 to 150 millimetres, or even with isolated totals in excess of 200 millimetres. So over the next few days, there's the potential for there to be some quite intense or very heavy accumulated rainfall totals across the region that could result in flash flooding, and also the roads to get cut off and communities to be isolated.
On en vient à la météo sur le reste du territoire. Perth, soleil 37 degrés, Adélaïde nuageux 37 degrés également. Melbourne, des éclaircies, comptait 31 degrés. Hobart, nuageux seulement 20 degrés. Canberra, des orages 25 degrés. Sydney et Brisbane, risque de pluie, comptait 27-28 degrés. Il pleuvra à Cairns, 31 degrés. Pareil à Darwin avec l'arrivée du cyclone, 33 degrés. Le rappel des principaux titres de l'actualité. L'avenir de Novak Djokovic totalement flou. Le numéro 1 mondial peut encore se faire expulser d'Australie et encourt des sanctions en Serbie pour non-respect des règles sanitaires. Près de 100 000 nouveaux cas en 24 heures dans le New South Wales et 1 000 dollars d'amende pour ceux qui omettraient de déclarer leurs résultats positifs d'un test rapide antigénique. Et un jeudi noir prévu en France, plus de 75% des enseignants dans la rue.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.